Bonjour, monsieur Pierre Anatole Matusila.
Bonjour.
Vous êtes né à l'Équateur. Le 30 juillet, c'est-à-dire le jour du premier tour des présidentielles, vous aurez exactement 59 ans et 29 jours. Certains de vos auditeurs aimeraient connaître votre vie de famille. Et vous êtes marié?
Je suis marié à une charmante épouse et nous avons 7 garçons.
Et votre père, lui, était l'un des disciples de Simon Kimbangu?
Oui, il était un disciple de Simon Kimbangu, c'est le prophète un pas de Simon Pierre. Il était l'avant-garde d'un mouvement politico-social qui a demandé à l'époque l'indépendance. Et ce fut un grand mouvement à l'époque où une grande partie de la population du Bas-Congo était reléguée à l'écart pour les problèmes d'opinion.
Vous êtes très engagé dans l'Église catholique parce que depuis 1996, vous présidez le Conseil national des laïcs catholiques.
Oui, je disais que j'ai rencontré une personne formidable dans ma vie, c'est mon épouse. En l'épousant, j'ai en même temps épousé sa religion. Et voilà, j'ai continué à gravir les échelons. Président du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, et je suis allé à la société civile et de là, j'ai continué à gravir les échelons. Je me suis fait remarquer. J'ai présidé la campagne nationale pour la paix durable. À l'époque, nous avons organisé une grande réunion. Ce fut depuis la CNS, un événement important qui a pu réunir les Congolais, ceux qui étaient dans les territoires occupés et les Congolais d'ici. Donc, nous sommes venus manifester notre volonté de vivre unis et libres sur le sol de nos ancêtres. Ce fut un grand moment et il fallait le faire à l'époque.
Nous revenons un peu sur votre vie professionnelle. Après des études de médecine au campus de Kinshasa en 1974, vous êtes spécialisé en radiologie et vous avez travaillé plus de 10 ans à l'hôpital général de Kinshasa. Et grâce à votre carrière, vous avez apporté une nouveauté en RDC en créant un centre de radiodiagnostic et d'imagerie médicale à Kinshasa.
Oui, j'étais chef de service du département de radiologie à la grande formation médicale de notre pays, Mamayemou. Et quand j'ai vu que je ne m'épanouissais pas suffisamment, je me suis installé en privé. Et ce fut le premier service d'imagerie médicale en privé qui a rendu d'énormes services à notre population. Et je vous assure qu'à aucun moment on a fermé ce service. Tous les jours, nous travaillons, nous fonctionnons et nous constituons un centre de recours pour les formations médicales privées et officielles qui sont le plus souvent en rupture des intrants.
Alors, vous le disiez, vous êtes aussi un acteur important de la société civile au dialogue intercongolais. Vous avez été même le porte-parole de cette composante. C'est à ce titre que vous êtes sénateur au Parlement des Transitions et membre du Comité national préparatoire de la Conférence internationale sur la paix, la démocratie, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs. Et aujourd'hui, vous êtes candidat indépendant à la magistrature suprême.
Oui.
Nous avons des auditeurs qui voudraient bien vous poser quelques questions. Il y a Choukrani de Harou en Ituri. Qu'est-ce que votre candidature apporte de spécial au peuple congolais?
Bon, ma candidature apporte quelque chose de nouveau parce que nous voulons faire la politique autrement. Il est évident que le dirigeant congolais a été incapable de penser la gestion du pays par rapport aux préoccupations des populations congolaises. Vivant avec cette population et nous pensant que notre société est malade, nous voulons apporter en tant que médecin la thérapeutique appropriée pour soigner convenablement notre pays qui est malade.
Alors, vous parlez de soigner, mais on va entrer dans le concret avec Flavien Umbanzungu qui pose sa question depuis Brésil. Que ferez-vous concrètement pour que chaque Congolais ait accès aux soins médicaux?
Bon, les problèmes des soins médicaux, c'est un problème important. D'abord, si vous voulez, si vous regardez les taux de morbidité, les Congolais meurent d'abord de paludisme, les Congolais meurent des maladies transmissibles de l'enfance, les Congolais meurent des maladies des mains sales, les maladies diarrhéiques. Donc, il faudra tout faire d'abord. Et puis, le taux de mortalité maternelle est très, très élevé. Et ajouté à cela, vous avez les maladies habituelles, la tuberculose, la lèpre et le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Donc, le diagnostic étant posé, il faut s'attaquer aux causes des problèmes. Donc, d'abord, soigner la mère et l'enfant, hein, les consultations prénatales et puis la planification familiale. En ce qui concerne l'enfant, il faut d'abord l'assainissement du milieu et puis une couverture vaccinale élargie. Donc il faudra apporter, le gouvernement doit apporter un appui budgétaire important aux entités décentralisées afin que les entités puissent ressusciter les services essentiels de base, notamment les écoles, les dispensaires.
Et dans votre programme, dans vos prévisions, vous avez déjà pensé à créer, par exemple, combien de centres médicaux?
Oui, nous avons d'abord au niveau des entités décentralisées. Il faudra ramener, puisque l'État ne doit rien imposer. Il faut tout faire avec l'aide des populations locales. En leur apportant un appui budgétaire, ils vont se mettre ensemble pour essayer de voir. Le développement ne s'applique pas, il s'invente. Il faut que les populations locales puissent être maîtres de leur destin et agents de développement de leur communauté. En leur apportant un appui budgétaire et puis en renforçant leurs capacités, et eux-mêmes vont se mettre ensemble pour définir les besoins au niveau de la base, et avec l'appui budgétaire, ils vont essayer de régler un certain nombre de problèmes.
Nous avons déjà passé 5 minutes, on va y aller très vite. Francis Étienne Touéléna, qui est depuis Montréal au Canada, veut connaître ce que vous ferez en faveur de l'enseignement si vous gagnez les élections.
L'enseignement de notre pays est très très malade. La demande en matière de l'enseignement et de la formation s'est fait de plus en plus croissante, de plus en plus pressante et de plus en plus diversifiée. Or, l'offre publique et privée en matière de l'enseignement est insuffisante. Et les États généraux de l'enseignement ont fait le diagnostic de notre enseignement. En ce qui concerne l'accessibilité, le taux de scolarisation est faible.
Mais par où vous allez commencer pour résoudre cette situation?
Oui, pour l'enseignement, d'abord, il faut réhabiliter les infrastructures de l'enseignement qui sont complètement délabrées. Il y a une surpopulation au niveau des écoles, donc il faut essayer de réhabiliter les infrastructures, de l'équiper, il n'y a pas de bancs. Il faut commencer par cela. Et puis, en même temps, recycler les enseignants, les motiver, il faut qu'ils aient un salaire significatif.
Combien vous avez déjà prévu?
Ah oui, et là, je pense qu'on parle de l'accord de Mboudi. Moi, ce n'est pas une référence. Il faut faire un calcul juste parce qu'on peut aller au-delà de Mboudi. Pourquoi on doit se référer à Mboudi?
Donc 300 $ pour l'enseignant le plus bas, par exemple.
Non, il faut un salaire décent. Il faut établir le SMIC d'abord. Si le SMIC est à 500 $, pourquoi vous voulez que l'on donne 200 $ à l'enseignant?
D'accord, nous allons prendre Aline de Mbujimayi. Comment pensez-vous faire bénéficier les Congolais de leur richesse minière?
Bon, la richesse minière, d'abord, il faut la bonne gouvernance. Avec la bonne gouvernance, il y a une juste répartition des richesses de notre pays. Et vous savez que les institutions de Bretton Woods ont défini le critère de la bonne gouvernance, transparence dans le processus de gestion et la compétence. Dans notre pays, ceux qui ont le commandement n'ont pas la compétence, ceux qui ont la compétence n'ont pas le commandement. Il faut allier les deux. Donc, celui qui gère doit en même temps être compétent. La juste répartition des richesses de notre pays et la lutte contre la corruption, les contrôles et la sanction. Si on applique la bonne gouvernance, et tout le monde pourra bénéficier de la répartition des richesses
Et
de
on
notre
parle
pays.
aujourd'hui de beaucoup de contrats léonins. Qu'est-ce que vous ferez avec ça?
Alors, il faut un parlement responsable pour essayer de révisiter tous ces contrats, les annuler et traduire en justice ceux qui ont été coupables de ces crimes. Et c'est un crime économique. Le rapport Lutundu là a essayé de faire un certain nombre de propositions qu'il faut
Et
regarder
vous
pour
allez
les
les
appliquer.
observer dès que vous
Ah oui.
passez au pouvoir?
Bah, il faut d'abord discuter, adopter ces rapports et les appliquer. Nous voulons mettre fin à l'impunité. C'est cela qui a détruit notre pays.
Nous allons parler de votre candidature dans les minutes qui nous restent. Vous êtes l'un de 19 candidats qui réclament le gel de la campagne et la transparence des élections. Emmanuel Kant, depuis Canada, demande pourquoi vous maintenez votre candidature si vous croyez que les élections sont truquées.
Oui, il faut tirer la sonnette d'alarme. On ne doit pas se taire. Les élections sont truquées. C'est un combat de tous les jours parce que nous voulons régler une fois pour toutes la question de légitimité. Si le processus est truqué, celui qui sortira des urnes aura une légitimité très très faible. Il lui sera difficile de diriger ce pays. Nous voulons rebâtir la confiance entre gouvernants et gouvernés. Il faudra que les autorités qui sortent des urnes soient ceux-là que le peuple congolais a véritablement choisi. C'est pour cela qu'il faut que le processus soit transparent et crédible, que tout le peuple congolais puisse y adhérer. Donc, pour que celui qui sortira, comme nous sommes en démocratie, c'est celui-là qui va gérer. Et pour asseoir davantage la légitimité, il faudra l'inclusivité de toutes les institutions de la transition pour élargir un peu la base
C'est un point de
légitime.
vue proche de l'Église catholique. Est-ce que on peut dire que l'Église catholique soutient aujourd'hui la candidature de Monsieur Anatole Pierre Matusila?
Ben, je suis un enfant de l'Église et je suis le seul dans les structures de l'Église qui a posé la candidature. Il est évident que je ne peux m'attendre que du soutien de tous les laïcs catholiques et j'ai reçu la bénédiction de mes pères spirituels pour cela.
Des évêques, vous voulez dire?
Ah oui. Les évêques sont le chef de l'Église, donc là où se trouve l'évêque, c'est là où se trouve l'Église.
Et est-ce que vous avez aussi des rapprochements avec les plateformes politiques qui existent déjà?
Oui, nous travaillons ensemble parce que la politique, on ne peut pas le faire seul. Donc, nous travaillons avec d'autres collègues et le moment venu, on va faire des alliances. Ça, c'est évident.
Et si vous ne passez pas au deuxième tour, vous allez soutenir un candidat?
Ben, nous verrons celui qui passera et en fonction du programme politique, et nous prendrons la décision au moment opportun.
Monsieur Pierre-Anatole Matusila Malungeni, Nekongo, je vous remercie.
Et je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette émission.